L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Bernard Vacherot, bonjour.
Salut à toi et salut à tous.
La semaine dernière, vous nous racontiez l'histoire de Radegonde de Poitiers, qui fut reine de France, hein, l'épouse de Clotaire Ier, et fondatrice de Sainte-Croix de Poitiers. Alors, on nous dit Wikipédia que ses funérailles eurent lieu le 25 août 587, en présence de Grégoire de Tours.
Voilà. Alors, ce Grégoire de Tours, nous allons en parler. Grégoire de Tours, je le répète, n'était pas moine. Mais, comme il a eu un rôle quand même signifiant dans la vie d'une moniale qui s'appelait donc Sainte Radegonde, on va en parler quand même. Saint Grégoire de Tours, parce que ça reste toujours lié, on peut pas être moine sans être lié aux autres organismes chrétiens. Bon, donc il y a forcément des liens entre le moine et le non-moine. Alors, Saint Grégoire de Tours est né dans le cadre d'une famille noble, gallo-romaine, peut-être vers l'an 540, et on situe son décès vers 594. Son nom épiscopal est en fait un prénom. Grégoire n'est pas son nom civil. Son nom civil est Georgius Florentius, et sa famille et ses proches, voire ses diocésains, l'ont surnommé Grégorius. Vous voyez, de Georgius, ils ont fait Grégorius, hein, c'est-à-dire Grégoire. En souvenir de son bisaïeul maternel, qui avait eu pour nom Grégorius et avait été évêque de Langres dans la Haute-Marne au royaume des Francs. Et soit dit en passant, je suis très très fier, Bernard Vacherot, parce que ma famille, la famille Vacherot, est de la Haute-Marne, d'Andilly en Bassigny, près de Langres, vous voyez, hein. Hein? Bon, alors donc, né vers 540 en Auvergne, et oui, notre Grégoire de Tours était encore jeune quand il perdit son père, Florentius, et fut élevé par sa mère, Armentaria, qui fut la sœur de Nisier, l'évêque de Lyon, Saint Nisier, l'évêque de Lyon, ainsi que par son oncle Gallus, évêque de Clermont-Ferrand. À la mort de Gallus, son successeur Avitus prit soin de compléter l'éducation du jeune Georgius Florentius, le futur Grégorius ou Grégoire de Tours. Éducation religieuse soignée qui le conduisit à être ordonné diacre en 563. Très tôt, il se consacra à l'approfondissement de la conversion des rois francs à un christianisme réel et non pas à un christianisme de surface destiné à mieux dominer le peuple. N'est-ce pas? De fait, le christianisme de ces rois fut, comme je viens de le souligner, souvent très superficielle et des plus formelles. En 563 et 573, à peu près entre ces deux dates, il devint prêtre et il semble que ce soit vers ces années-là qu'il partit dans la région de Tours. C'est en tout cas en 573 qu'il fut élu évêque de Tours. Malade, il aurait, d'après la tradition, obtenu sa guérison en allant prier au tombeau de Saint Martin, qui jadis avait été évêque de cette même cité. Alors, notre Grégoire demeura à Tours sous l'épiscopat de l'évêque Euphronius, et donc lui succéda comme évêque en 573. Auteur de nombreuses vies de saints, ce fut donc un hagiographe. Alors je répète, en grec, ça vient de hagios, c'est-à-dire saint, et graphos, écriture, hein, écriture sur les saints. Voilà pour l'étymologie d'hagiographie. Donc, pour en revenir à Grégoire de Tours, il semble avoir eu propension à une certaine religiosité que l'on pourra qualifier de mêlée de superstition. Et il ajouta un grand crédit aux diableries et aux récits merveilleux des vies de saints et de saintes. Oui, ces hagiographies ont été très mêlées de merveilleux, de démonisme, etc., etc., etc. Mêlant sans grand discernement les légendes et les réalités. Et ça, en particulier, dans sa vie de Saint-Martin de Tours, vie qui servit de base à de nombreux autres récits hagiographiques. Mais n'allons pas non plus exagérer chez lui l'aspect superstitieux, car ce fut un chercheur de vérité historique, ne fût-ce que pour œuvrer dans le but de l'évangélisation des rois francs. C'est aussi dans ce dessein qu'il rédigea son œuvre considérée comme majeure et que l'on appelle Historia Ecclesiastica, c'est-à-dire l'histoire ecclésiastique, histoire de l'Église, qui constitue une monumentale histoire des Francs et de l'Église en royaume franc, en 10 volumes, composés à 3 reprises. Alors, certains auteurs, comme par exemple Joseph F. Kelly, dans son dictionnaire du christianisme ancien, à la page 93, et Marcel Proust, dans sa Gaule mérovingienne, à la page 237, confirme le fait que Grégoire de Tours ait écrit l'ouvrage Historia Ecclesiastica en 3 morceaux, répartis en 2 périodes. La première, situable entre 573 et 575, date d'ailleurs du décès de Sigebert Ier, roi d'Austrasie. L'Austrasie, c'est la partie qui comprenait le nord-est de la France avec une partie de la Belgique et de l'est de l'Allemagne. Tandis que les livres 5 et 6, donc, furent la deuxième partie, hein, la deuxième composition, rédigé vers 587, donc environ 7 ans avant la mort de Grégoire de Tours, situé en 594. Il fut encore l'auteur d'ouvrages comme le De Vita Patrum, c'est-à-dire de la vie des pères, ou De Cursibus Ecclesiasticis, où sont plus qu'abondamment énumérés et décrit d'ailleurs, les miracles de Saint André. Ouvrage où justement, alors là, se perçoit clairement le côté superstitieux et épris de merveilleux de notre auteur. Au fond, la grande préoccupation de Grégoire, comme diacre, puis comme prêtre, et enfin comme évêque, fut la mission évangélisatrice faite de prédication populaire proche du petit peuple. Et la conversion, vous voyez, là, on reste, c'est le même esprit, au fond, que Saint Radegonde, hein. Voilà. La conversion du petit peuple. Et la conversion des rois francs, dont le christianisme était, je le répète, sans véritable profondeur spirituelle et encore moins théologique. Il décéda le 17 novembre 594.
Racontiez l'histoire de Grégoire de Tours qui fut, on peut dire, un des premiers à avoir laissé autant de livres d'histoire.
Oui.
On a beaucoup de chroniqueurs à la fin de la période mérovingienne.
Justement, le genre chronique et hagiographique, chronos en grec, eh bien justement le temps, n'est-ce pas ? Donc l'histoire du temps, et hagiographie. Agios et graphos, c'est-à-dire les saints et la vie des saints, soit l'écriture, bien sûr, ont été des genres littéraires très en vogue entre, disons, le 5e siècle et la fin du Moyen-Âge. Alors, il y a eu un homme qui s'appelait Marius, qui a été évêque d'Avenches. Je vous avouerai que je ne sais pas où est Avenches. J'ai eu beau chercher dans tous mes dictionnaires, je n'ai pas trouvé Avenches, à ne pas confondre avec Avranches. Bon. Alors, Marius Proux fut un évêque, il a été évêque d'Avenches. Marius Proux. Pardon. Maurice Proux. Bon. Évoque Marius, évêque d'Avenches, à la page 242 de son livre sur la Gaule mérovingienne. Je cite beaucoup ce livre parce que vraiment, et il fait partie des très bonnes études, déjà anciennes, qui ont été faites sur cette époque. Alors ce Marius aurait été évêque d'Avenches, donc je ne sais pas où se trouve ce village.
Actuellement, c'est en Suisse.
En Suisse, actuellement.
Oui.
Attendez, je le marque tout de suite. Oui. Là, dans mes notes, je le marque tout de suite.
Bon. Dans le canton de Vaud.
Voilà. Et il serait contemporain de Saint Grégoire de Tours, ayant donc vécu au 6e siècle, et se fit connaître comme chroniqueur, c'est-à-dire qu'il fut plus exactement le rédacteur d'événements qu'il semble avoir vécu. Mais Maurice Proux conteste le fait de dire qu'il ait agi en historien, c'est-à-dire en chroniqueur dont l'œuvre écrite est surtout centralisée sur le personnage de Prosper d'Aquitaine. Alors qu'est-ce qui attira Marius, évêque d'Avenches, en Suisse, puisque tu m'en as donné le renseignement ? Eh bien, Qu'est-ce qui l'attira dans le personnage de Prosper d'Aquitaine? Apparemment, ce fut l'anti-semi-pélagianisme de Prosper d'Aquitaine, moine marseillais, on reste toujours dans le monastère, hein, qui informa saint Augustin de l'opposition que rencontra son enseignement sur la grâce chez les hommes, comme Jean Cassien, Vincent de Lérins, etc. Puis encore le fait que Prosper d'Aquitaine ait pris des distances par rapport à certains points de vue de la doctrine d'Augustin, par exemple sur la question de la prédestination. Mais ce sont surtout les questions que l'on posait à l'époque au sujet de la prédestination, du péché originel, de la damnation, des enfers, etc., qui au fond le taraudaient comme elle angoissait les esprits d'alors. Alors Marius d'Avenches, évêque gaulois, s'opposait à la doctrine de Pélage et de ce fait au semi-pélagianisme qui, tout en refusant celle de Pélage, en conservait certains relents, comme on l'a déjà vu. Évêque, Marius d'Avenches ne pouvait pas admettre le pélagianisme, ni même le semi-pélagianisme, pour qui l'homme peut se sauver par lui-même, car Dieu lui donne le libre arbitre et la loi morale. Toujours selon Pélage, la grâce divine n'a qu'un rôle d'aide secondaire. Je vous ai dit que Pélage ne niait pas la grâce divine, mais lui donnait un rôle d'aide secondaire, et la liberté de l'homme n'a en rien souffert du péché d'Adam, réduit à un simple mauvais exemple. Nous sommes toujours dans le pélagianisme et le semi-pélagianisme. Certes, le semi-pélagianisme rejeta le côté absolutiste doctrinal du pélagianisme à ce sujet, mais il s'opposa à la doctrine de saint Augustin sur la question de la gratuité de la grâce et continua d'affirmer que le commencement du salut ou de la conversion de l'homme est l'œuvre de celui-ci et non de la grâce. Il ne nie pas exactement la prédestination, mais il la relègue à une préscience ambiguë. Alors que l'Église condamnait la croyance en la prédestination, Prosper d'Aquitaine rejoignit saint Augustin dans son opposition au semi-pélagianisme et critiqua Jean Cassien, qui partageait certaines idées semi-pélagiennes et fit de même envers Vincent de Lérins et certains de ses moines. Alors le sujet passionnait à l'époque, puisque Faust de Riez, ancien moine de Lérins et évêque de Riez dans les Alpes, ou peut-être prononce-t-on Riez, je ne sais pas, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui fut abbé de Lérins en 433, puis évêque de Riez en 462, et décéda en 490-499, s'engagea dans la controverse en critiquant la doctrine de saint Augustin et dans son ouvrage intitulé « De gratia Dei et liberatio arbitrio » de la grâce de Dieu et sur le libre arbitre, expose une doctrine quasiment semi-pélagienne. Sur cette question, il s'oppose à Fulgence de Ruspe, qui, évêque de Ruspe en Tunisie, naquit vers 467, fut évêque de Ruspe en 507 et décéda en 532. Ce dernier fut donc opposé à Faust de Riez à propos du semi-pélagianisme. Et il se montra solidaire de saint Augustin dans la rédaction de son ouvrage « Ad Monimum De Veritate Predestinationis et Gratiae Dei », autrement dit, de la volonté divine, de la vérité sur la prédestination et de la grâce de Dieu. La polémique concernant le pélagianisme et le semi-pélagianisme opposait les uns aux autres, et on comprend pourquoi Marius, évêque d'Avenches, s'intéressa à Prosper d'Aquitaine, qui s'opposait au pélagianisme et au semi-pélagianisme. N'oublions pas que l'époque était très perturbée par ces problèmes, et même politiquement, les invasions barbares, les royaumes et empires instables, que religieusement, relents d'arianisme, de pélagianisme, de semi-pélagianisme, les rois et empereurs au christianisme peu évident et à la doctrine très peu sûre, intellectuellement faible, pratique de superstition, héritée des restes d'anciens cultes, tout cela créa un climat religieux et psychologique trouble, nécessitant de fortes clarifications théologiques de la part de personnages comme Marius d'Avenches. Et on comprend dès lors pourquoi il s'intéressa tant à Prosper d'Aquitaine afin d'argumenter sa propre lutte contre les théories pélagiennes et semi-pélagiennes qui divisaient la chrétienté gauloise d'alors. On connaît encore une chronique attribuée ou dite de Frédéguer.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.